Une semaine d'actualité. François Mazet.
Bonjour et bienvenue dans Une semaine d'actualité, épisode du samedi 13 août 2016. Au cours de la prochaine heure, nous parlerons de ce nouveau mandat pour le président tchadien Idriss Déby, de la tension sociale en Éthiopie, de la bataille pour Alep en Syrie, de Donald Trump qui ne laisse guère de répit aux électeurs et aux commentateurs. Mais pour se replonger dans l'actualité de la semaine, nous rembobinons jusqu'au week-end dernier dans la nuit de Rio.
La 31e Olympiade Rio de Janeiro 2016.
E agora os jogos serão declarados abertos. Após esse maravilhoso espetáculo, declaro abertos os Jogos Olímpicos do Rio, celebrando a 31ª Olimpíada da Era Moderna.
L'État de Rio de Janeiro est en état d'urgence financière et les autorités ont alloué tout l'argent disponible pour l'organisation des Jeux Olympiques. Alors que la population n'a ni éducation, ni santé de qualité, rien du tout.
Nous n'avons rien contre les touristes qui viennent voir les Jeux, mais nous sommes contre les JO qui créent de l'injustice. Et nous dénonçons la répression brutale utilisée contre nous.
Voilà, les Jeux Olympiques finissent leur première semaine alors que les Brésiliens, comme ces deux manifestants que vous venez d'entendre, s'interrogent encore sur leur opportunité. Le président du CIO, Thomas Barr, a souhaité la bienvenue aux athlètes alors que celui qui assure les fonctions présidentielles brésiliennes, Michel Temer, a lui essuyé les sifflets de son peuple. Bonjour Gaspard Estrada.
Bonjour.
Vous êtes notre invité aujourd'hui, vous êtes chercheur en sciences politiques, directeur exécutif de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po Paris. Vous travaillez en particulier sur le Brésil. Alors Gaspard Estrada, on a entendu ces sifflets, visiblement il n'y a pas de trêve olympique au Brésil. Hein.
Non, malheureusement non. Le gouvernement qui est donc en place, le gouvernement intérimaire de Michel Temer, est très impopulaire dans l'opinion. 14% des Brésiliens se déclarent satisfaits de cette action gouvernementale. Et donc, c'est dans le contexte de cette triple crise politique, économique, sociale que se sont ouverts ces Jeux à Rio. Et ce qui s'annonce par la suite, c'est manifestement encore plus de tensions et de polarisation sociale.
Quand Rio a obtenu les Jeux en 2009, le Brésil portait une promesse, celle d'une puissance émergente, d'une puissance jeune, amicale, joyeuse. Elle semble loin, cette promesse, aujourd'hui.
Oui, elle semble loin parce que, justement, ce qui faisait la force du Brésil, c'est-à-dire un pays qui était en paix et qui, surtout, avait un message d'espérance, c'était le pays émergent qui avait tous les atouts, en quelque sorte, et un pays qui avait de la croissance. En 2010, le Brésil a eu 7,5% de croissance de son PIB, une croissance aussi qui se traduisait par une amélioration du niveau de vie des Brésiliens. 30 millions de personnes sont sorties de la pauvreté durant les années Lula. Et aujourd'hui, on voit plutôt une régression sur le plan social. Le gouvernement intérimaire justement a annoncé des coupes dans les budgets de l'éducation, de la santé, a remis en question certains programmes sociaux qui avaient été justement la fierté des gouvernements Lula. Et donc aujourd'hui, on voit bien que tout cet édifice, en quelque sorte, toute cette image d'un Brésil conquérant, non seulement sur le plan international, mais surtout pour son peuple, on voit bien que cela est remis en question. Et cela est mis en exergue, en fait, par ces JO, parce qu'il y a il y a des milliers de journalistes qui sont sur place et qui, justement, illustrent par leur reportage cette triple crise.
Mais justement, comment est-ce qu'on en est arrivé là de ce Brésil triomphant de Lula à ce Brésil quasi défaillant de Dilma et Temer?
Bon, moi je pense qu'il y a eu certains éléments qui sont dus à l'action gouvernementale et d'autres qu'il s'agit de facteurs exogènes. Je pense que le Brésil reste un pays qui dépend des matières premières, donc un pays exportateur de matières premières. Et or, entre 2010 et 2016, c'est vraiment le monde qui a changé. le prix des matières premières ont sensiblement diminué, notamment dans les secteurs où le Brésil est leader. Et donc, ça a eu une conséquence donc, sur l'économie du Brésil. Je pense qu'il y a eu aussi un autre élément qui est lié justement à l'action gouvernementale de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff qui, en 2012, a décidé justement pour réindustrialiser le Brésil de mettre en place un système d'exonération fiscale très, 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 très important qui, malheureusement, ne s'est pas traduit par une augmentation des investissements qui sont nécessaires au Brésil et qui, au contraire, a aggravé en fait le bilan financier de l'État. Aujourd'hui, la dette publique du Brésil, dans sa trajectoire, n'est plus soutenable et c'est ce qui oblige justement au gouvernement, que ce soit de Dilma Rousseff ou de Michel Temer, aujourd'hui, de diminuer les dépenses de l'État. Donc cela a aggravé en fait la situation économique du Brésil. Et finalement, il y a un troisième facteur qui est lié à la justice et à la découverte de ce scandale Petrobras, donc qui lie en fait les entrepreneurs du BTP à des intermédiaires véreux et finalement à des hommes politiques corrompus. Et donc c'est tout ce système-là qui huilait en quelque sorte cette machine et qui contribuait justement à la croissance du Brésil, justement en mettant en place ces travaux. Tout ce système-là s'est grippé et aujourd'hui on voit que ces géants du BTP licencient massivement et cela a une conséquence dans l'emploi.
Dilma Rousseff qui est actuellement suspendue de ses fonctions et qui pourrait être écartée définitivement du pouvoir. Le Sénat brésilien a validé en tout cas cette semaine la tenue d'un procès en destitution. Notre correspondant François Cardona, mercredi matin sur l'antenne de RFI.
Dilma Rousseff est désormais formellement inculpée après une session au Sénat de plus de 12 heures et une majorité écrasante de 59 votes contre 21. La présidente, déjà suspendue de ses fonctions, est désormais certaine de devoir affronter un procès en destitution. Elle devra répondre de crimes de responsabilité fiscale. Elle est accusée d'avoir maquillé les comptes publics, notamment l'année de sa réélection, en 2014. Son procès, de nouveau devant le Sénat, aura lieu après la fin des Jeux Olympiques. La date est encore incertaine, mais d'ici fin août, Dilma Rousseff devrait être fixée sur son sort. Elle qui dénonce un coup d'État institutionnel perpétré par son ancien allié, Michel Temer, l'actuel président par intérim. Si Dilma Rousseff est condamnée, elle sera destituée. Michel Temer resterait en fonction jusqu'aux prochaines élections présidentielles en 2018. Mais si elle est innocentée, alors la présidente pourrait reprendre immédiatement ses fonctions. Un scénario cependant que la presse brésilienne juge peu probable. Ce vote au Sénat largement défavorable à Dilma Rousseff vient l'affaiblir encore davantage.
Gaspard Estrada, à l'occasion de cette crise politique, on s'intéresse au système politique brésilien. Et pour quelqu'un de l'extérieur, il est difficilement compréhensible. Il ne favorise pas la transparence, ce système.
Non, je crois qu'il est justement, il se caractérise par son opacité. Surtout parce que il y a une relation incestueuse entre argent et politique jusqu'à très peu de temps, en tout cas jusqu'à l'année dernière. Les dépenses des campagnes électorales n'étaient pas plafonnées. C'est-à-dire que concrètement, un candidat, s'il voulait être élu, il fallait qu'il obtienne le maximum de ressources financières, justement, pour s'assurer d'être élu. Et cela, justement, était la porte ouverte à toutes les dérives. Et je crois qu'on l'a bien vu au cours de ces deux dernières années, à quel point, justement, il y a eu une très grande imbrication entre entrepreneurs et hommes politiques, et à quel point ce système pervers a fomenté et a contribué à rendre le système, dans son ensemble, de moins en moins crédible.
C'est un grand échec, ça, de la période Lula-Dilma, l'absence de réforme du système politique brésilien?
Oui, oui, certes, je pense qu'il faut aussi prendre la mesure du système politique brésilien. Le Parti des Travailleurs, donc le parti des présidents, l'ancien président Lula et de l'actuelle présidente, en tout cas jusqu'à présent Dilma Rousseff, n'a jamais été majoritaire au Parlement. Le PT, dans son heure de gloire, on pourrait dire, en 2002, en tout cas lorsque Lula a été élu pour la première fois, a obtenu au plus 20% des sièges au Parlement. Donc concrètement, pour gouverner, pour avoir des majorités, il fallait faire des alliances. Sauf qu'il fallait faire des alliances avec qui ? Avec les personnes qui incarnent ce système politique et qui, paradoxalement, aujourd'hui, sont les grands gagnants de toute cette opération politique. Parce que Michel Temer, donc le président par intérim, est le président d'honneur du PMDB, donc le parti du mouvement démocratique brésilien, qui a été dans toutes les majorités gouvernementale depuis le retour à la démocratie au Brésil en 1985.
Donc le Parti des Travailleurs a cherché le consensus nécessaire pour pouvoir gouverner. finalement, eh bien, est resté dans l'immobilisme.
Il s'est fait en quelque sorte dévorer par un système qu'il a échoué à réformer.
Alors les JO, Gaspard Estrada, c'est aussi du sport, avec cet instant historique, c'était jeudi soir. La première médaille olympique des îles Fidji, 900 000 habitants, et le plus beau des métaux, c'est l'or dans leur discipline de prédilection. Le rugby à 7, nouvel arrivant au JO, de quoi profiter de cette prière de victoire. Voilà de la joie et beaucoup de larmes du côté des joueurs du Pacifique, vainqueurs de la finale face à la Grande-Bretagne alors que l'Afrique du Sud prenait la troisième place. Côté français, pas mal de déceptions cette semaine. La première médaille a été glanée dimanche dernier, de l'argent sur le relais 4x100 mètres nage libre qui procurait de la joie à l'un des relayeurs, Fabien Gillot.
Forcément de la déception, hein, ce 4x100 a le potentiel pour gagner, il l'a fait voir depuis maintenant quelques années, donc... Malheureusement, on avait entamé une belle série depuis 2012 et c'est aujourd'hui qu'elle s'arrête. On aurait aimé qu'elle s'arrête un autre jour que sur les Jeux Olympiques, mais je pense qu'on n'a pas à rougir. 3-10, ça a été très rapide aujourd'hui le temps qu'on a fait. Et bravo aux Américains, aujourd'hui ils ont été les meilleurs. Ça reste quand même une médaille d'argent olympique. Maintenant, on venait pour l'or, on est déçus, mais une fois de plus, on a attaqué la finale comme on sait le faire depuis quelques années. Le bon contexte, la bonne philosophie, la bonne stratégie. C'est juste que ça fait partie du sport. Il y a des jours où on gagne, des jours où on perd. Et aujourd'hui, bravo aux États-Unis.
Voilà, joie matinée d'un petit peu de déception quand même et du fatalisme. La natation française qui est un peu bulle-bouillon par ailleurs. Entre autres, Camille Lacour, avant de quitter les bassins, le cinquième de la finale du 100 mètres d'eau, a lâché une bombe dans la piscine.
Ça me déplaît d'être battu par un Chinois. Ouais, je préfère retenir. En même temps, je vois le podium du 200 libre, donc ça me donne un peu envie de vomir. Je suis très triste de voir mon sport évoluer de cette façon. J'ai l'impression de voir de l'athlétisme avec deux ou trois dopés dans chaque finale. Voilà, c'est. J'espère que la FINA va vite réagir et arrêter ce massacre parce que ça devient triste. Et puis de toute façon, enfin, ils n'ont rien à faire dans un sport. Ils ont qu'à faire une fédération de chargés et ils vont s'amuser entre eux. Voilà, moi, c'est pas comme ça que je conçois le truc. Et ça me dégoûte d'avoir des gens qui ont triché. Sur les podiums. Sur celui du 200 crawl, là, Sun Yang, il pisse violet.
Voilà, Camille Lacour s'en prend au dopage dans son sport, notamment aux athlètes chinois, fustigeant le médaillé d'or du 200 mètres, alors que la légende Michael Phelps, qui n'arrête pas d'engranger les médailles, en a remis une couche aussi en citant nommément une nageuse russe, médaille d'argent sur 100 mètres brasse, et déjà deux fois contrôlée positive. Avec toutes ces affaires de dopage, le comité olympique a une belle épine dans le pied. Alors Gaspard Estrada, est-ce que vous êtes sportif vous-même ou amateur en tout cas de sport ?
Oui, je peux pas dire que je sois un grand sportif, mais j'aime bien le sport et je regarde donc avec attention ce qui se passe à Rio.
Est-ce qu'on peut bien comprendre l'âme brésilienne sans comprendre l'âme du football ?
Ah, je crois que ça c'est fait partie intégrante en fait de la culture brésilienne. Je pense que par exemple, pour revenir sur ces affaires politiques, les hommes politiques brésiliens sont de grands amateurs de football. L'ancien président Lula est un fan, un très très grand fan de l'équipe de Corinthians de São Paulo. Et il y a parfois même des métaphores dans le monde politique qui sont liées au football. Je pense que comprendre, en tout cas s'intéresser au football, fait vraiment partie intégrante de la culture brésilienne. Et donc de ce point de vue-là, si on veut comprendre le Brésil, c'est vrai que c'est toujours bon de s'intéresser au sport et notamment au football.
RFI. Une semaine d'actualité toujours en Amérique du Sud avec un autre chef d'État dans la tempête. Mais il ne devrait pas y avoir de référendum révocatoire au Venezuela avant janvier 2017. La collecte des 4 millions de signatures nécessaires pour organiser ce référendum qui pourrait faire tomber le président Nicolas Maduro ne pourra en effet avoir lieu au mieux que fin octobre, ce qui permettrait au pouvoir d'éviter des élections anticipées. Julien Gonzalez, correspondant de RFI à Caracas, a rencontré des Vénézuéliens inquiets.
Magali se revendique opposante à 100%. Depuis la victoire de son camp lors des dernières législatives, le référendum révocatoire est pour elle la priorité. Alors que le processus traîne en longueur, cette retraitée ne cache pas son inquiétude.
Nous, les Vénézuéliens, nous sommes impuissants et pleins de rage. Mai, juin, juillet, août, 4 mois que nous attendons. Nous n'allons jamais pouvoir en finir. Et pendant ce temps-là, les gens meurent de faim. Le peuple ne va plus pouvoir supporter ces pénuries. Ce qui empêcherait l'explosion sociale, c'est ce qui est légal, à savoir le référendum révocatoire. Et s'ils continuent à le retarder, ça va se produire parce que nous ne voulons pas de vice-président chaviste et d'autres chavistes au pouvoir.
Simon a lui aussi fait le choix de l'opposition en décembre dernier. Pour ce serveur, au-delà du référendum révocatoire, l'urgence, selon lui, c'est de trouver de quoi se nourrir dans les magasins.
Je ne pense pas que le référendum révocatoire soit la grande priorité. Il y a un temps pour tout. Dans la situation actuelle, je crois que le dialogue est plus efficace pour trouver des solutions aux pénuries. Parce qu'après le référendum, il faudra changer de gouvernement. Et le temps d'accommoder tout ça, nous serons peut-être en train de nous manger les uns les autres. J'ai encore espoir que les deux camps comprennent et s'assoient à la même table pour s'entendre.
Le camp chaviste, de son côté, dénonce la fraude massive de l'opposition. Il n'y aura pas de référendum cette année, et vu comme c'est parti, il n'y en aura pas non plus en 2017. C'est ce qu'a déclaré Jorge Rodriguez, l'un des vice-présidents du Parti Socialiste au pouvoir.
Voilà, Nicolas Maduro dans la tourmente au Venezuela, Dilma Rousseff dans la tourmente au Brésil. Il y a eu l'alternance également en Argentine. Gaspar Estrada, la gauche sud-américaine triomphante, c'est terminé ?
Je ne sais pas si c'est terminé. En tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une remise en question, en fait, des gouvernements qui sont en place depuis plus ou moins une décennie. Je pense qu'il y a aussi un contexte économique qui est très peu favorable à ces gouvernements. Et donc, ce qui incite justement les Latino-Américains à penser l'alternance et surtout à voter pour des plateformes politiques qui visent à changer ces gouvernements. Alors après, est-ce que c'est une question liée à la gauche en soi? Je ne le pense pas. Je pense que des gouvernements de droite, surtout si on voit les résultats, par exemple en 2015, l'essentiel des élections qui ont lieu en Amérique latine ont eu lieu au niveau local. Et on a également pu vérifier qu'au cours de ces élections locales, les exécutifs de droite ont été battus justement par des candidats qui proposaient des changements et venaient de gouvernements de gauche. Je pense que surtout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est un désir, une soif de changement en Amérique latine. Et on le voit bien avec votre reportage, les latino-américains souhaitent que les choses évoluent.
Quel bilan on gardera de ces années, globalement, 2000-2015? C'est un peu les années Lula, Kirchner, Chavez?
Oui, bon, je pense que sur le plan social et sur le plan de l'économie, le bilan, il est très bon. Après, bien sûr, il faut le nuancer par rapport au pays, aux réalités de chacun des pays. Je pense que notamment au Brésil, j'avais cité le chiffre des 30 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté. C'est quand même quelque chose de très parlant, très fort. Je pense qu'en Argentine également, il y a eu une réduction de la pauvreté. Et donc, on voit bien que l'Amérique latine, de manière générale, a vu ses conditions d'existence justement aller dans la bonne direction. Je vais donner un exemple, la Bolivie. La Bolivie, en espèce de 10 ans, le PIB s'est multiplié par 3. Ces données, il s'agit de statistiques, mais derrière les chiffres, il y a des millions de vies qui ont évolué dans le bon sens. Alors, cela étant dit, on voit bien aujourd'hui qu'il y a, sur le plan institutionnel, sur le plan politique, les limites justement de ces gouvernements qui justement avaient essayé de changer la vie, hein, pour reprendre l'expression de Mitterrand. Voilà, exactement. Parce que justement, en Amérique latine, ces gouvernements s'étaient employés à vouloir réformer les constitutions de ces pays justement pour donner un nouveau cadre de vie, un nouveau pacte républicain à ces pays. Et on voit bien aujourd'hui que malgré ces constitutions, malgré cette croissance économique et sociale, aujourd'hui on arrive aux limites de ce modèle et aujourd'hui les Latino-Américains souhaitent de manière générale un changement.
Voilà, une semaine d'actualité marque une pause, le temps de retrouver les dernières informations de ce samedi matin. On se retrouve dans quelques minutes pour continuer à dérouler le fil de la semaine. On parlera notamment de Donald Trump et d'Idriss Déby. Gaspard Estrada, vous restez avec nous, on revient dans 5 minutes.
Une semaine d'actualité, François Mazet.
Une semaine d'actualité, deuxième partie avec notre invité Gaspard Estrada, chercheur en sciences politiques et directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. de Sciences Po à Paris. On en vient à la campagne américaine qui suit son cours, enfin façon de parler, puisqu'avec Donald Trump, ce n'est pas vraiment un long fleuve tranquille. Avec ce nouveau tollé en milieu de semaine, le candidat républicain est accusé d'avoir lancé un appel à la violence contre Hillary Clinton. Stéphanie Schuller.
Lors d'un rassemblement mardi après-midi à Wilmington, Donald Trump s'est présenté comme le seul rempart contre la nomination de juge à la Cour suprême, susceptible de remettre en cause le deuxième amendement de la Constitution, amendement qui garantit le droit de garder et de porter des armes.
Hillary veut abolir le second amendement. Si elle a la possibilité de choisir ses juges, il n'y a rien que vous puissiez faire, les gars, à moins que les gens du second amendement... Il y a peut-être quelque chose à faire, je ne sais pas.
L'ex-directeur de la CIA, Michael Hayden, voit en ses propos une référence de très mauvais goût à un assassinat politique. Chris Murphy, sénateur démocrate du Connecticut, écrit sur Twitter « Ce n'est pas un jeu, des gens instables munis de puissantes armes à feu et une haine irrationnelle pour Hillary vous écoutent, Donald Trump. » Et le directeur de campagne de la candidate démocrate, quant à lui, a estimé qu'une personne qui cherche à devenir président des États-Unis ne devrait pas lancer un appel à la violence sous quelque forme que ce soit. Donald Trump, de son côté, n'a pas daigné répondre personnellement à ce déferlement de critiques. Dans un communiqué, son équipe de campagne s'est contentée d'expliquer que le milliardaire n'a voulu qu'appeler les défenseurs du port d'armes à s'unir derrière sa candidature.
Gaspard Estrada, un des pays que vous suivez avec attention, c'est le Mexique. On sait que Donald Trump a promis de murer la frontière États-Unis-Mexique. Comment est-ce qu'on voit Trump au Mexique ?
Très mal, parce que justement, on voit bien que cette candidature, qui il y a plus ou moins un an était considérée comme une candidature de fantaisie, on disait que, in fine, Trump n'allait même pas être candidat du parti républicain, qu'il allait lui-même être tributaire de ses erreurs de communication et justement de ce discours aussi haineux, raciste, non seulement contre les musulmans, mais aussi contre les Mexicains, que finalement cette candidature était une candidature sans aucun avenir. Aujourd'hui, on voit bien que Donald Trump, malgré ces aléas que vous avez décrits, est une candidature compétitive. En tout cas, il s'agit du candidat qui a été investi par le parti républicain, donc il incarne quelque chose aujourd'hui. Et cela a vraiment soulevé les boucliers, a créé beaucoup d'inquiétudes au Mexique, de plus manière plus générale en Amérique latine, parce que les pays latino-américains ont besoin d'avoir une bonne relation avec les États-Unis, notamment le Mexique, qui a des millions de nationaux qui résident aux États-Unis, avec plus de 80% des échanges commerciaux qui sont faits entre le Mexique et les échanges commerciaux du Mexique qui sont réalisés avec les États-Unis. Donc on voit bien aujourd'hui que sans une bonne relation avec le président des États-Unis, le Mexique ne peut pas fonctionner.
Une des avancées de la politique étrangère de Barack Obama, ça a été le dégel des relations avec Cuba. Que dit Donald Trump de Cuba ? Est-ce qu'il est sur la ligne dure des républicains ?
Bon, je pense que concernant le sujet cubain, Donald Trump, pour le moment, il me semble qu'il ne s'est pas tellement avancé, même s'il faut bien prendre en compte la géographie, la démographie électorale des États-Unis, à savoir un parti républicain qui est très agressif vis-à-vis de Cuba. Il s'agit de ce parti qui a justement fait le plus de pression pour que l'embargo soit maintenu donc depuis plus de 50 ans et qui est tous les ans est condamné par l'Assemblée générale de l'ONU, même s'il y a aussi une nouvelle réalité en fait qui s'impose sur le point de vue de la démographie électorale, à savoir que les générations de Cubains qui étaient partis de Cuba et qui étaient exilés en Floride, aujourd'hui passent le relais. Et c'est une nouvelle génération de Cubains américains, mais qui sont bien plus éloignés de cette réalité de confrontation, de guerre froide, qui aujourd'hui n'a pas Cuba en tête de leur priorité et qui plutôt essaie de se projeter vers l'avenir. Et donc cela a une traduction électorale très concrète dans le sens où les députés républicains les plus hostiles justement à Cuba aujourd'hui perdent des sièges et donc cela a un effet sur le discours du candidat républicain qui ne veut d'un côté pas s'aliéner cette base électorale-là, mais qui voit bien qu'aujourd'hui, ce discours-là n'est plus majoritaire, y compris dans l'État où il y a le plus de cubano-américains des États-Unis, c'est-à-dire la Floride.
Cuba, où d'ailleurs Fidel Castro fête aujourd'hui ses 90 ans. Les États-Unis voient en ce moment leurs relations diplomatiques avec la Turquie se dégrader au fil des semaines. Depuis le putsch raté du 15 juillet, les autorités turques n'ont qu'un nom à la bouche, celui du prédicateur Fethullah Gulen, ancien allié devenu ennemi du président Recep Erdogan. Il est accusé d'être derrière le coup d'État, ce qu'il dément. La Turquie exige son extradition. Recep Erdogan a rendu visite à Vladimir Poutine cette semaine alors que les deux hommes étaient en froid depuis que la Turquie avait abattu un avion militaire russe. Deux hommes qu'on compare souvent dans le style. En Turquie, le pouvoir enchaîne les démonstrations de force depuis le putsch raté. Par exemple, dimanche dernier à Istanbul, le correspondant de RFI, Alexandre Billette, assistait à cette grande manifestation.
3 millions, peut-être 4 millions de personnes ont patienté des heures sous une chaleur insupportable pour participer à cette manifestation. Mais c'est le discours du président Recep Tayyip Erdogan qui était attendu. Un discours où il a encore une fois milité pour le rétablissement de la peine de mort. Une demande scandée par le public tout au long de la soirée.
Les chefs de nos partis politiques sont présents ici et ils connaissent vos demandes. La souveraineté de la nation étant inconditionnelle, si vous demandez la peine de mort, elle sera promulguée par la Grande Assemblée nationale. Et par la suite, je le dis à l'avance devant vous, je validerai cette décision.
Le rassemblement de dimanche est une démonstration de force de Recep Tayyip Erdogan, définitivement le grand bénéficiaire de cette soirée. Le président turc qui a annoncé que les manifestations quotidiennes qui devaient prendre fin avec ce grand rassemblement se poursuivraient partout en Turquie au moins jusqu'à mercredi.
Oui, et la crise est si profonde que le secrétaire général de l'OTAN a dû expliquer que la place de la Turquie au sein de l'Alliance Atlantique n'était pas remise en question.
RFI.
Les combats font rage autour d'Alep, la deuxième ville de Syrie. Tout au long de la semaine, les troupes de Bachar el-Assad ont affronté une coalition de rebelles et d'islamistes qui tentent de briser l'encerclement de la ville. Des deux côtés, comme nous l'expliquait de Beyrouth Paul Ralifé jeudi matin, on achemine des renforts et on se prépare à une grande bataille que l'on présente comme décisive.
Les deux parties continuent d'acheminer d'importants renforts autour d'Alep en prévision de la prochaine bataille. Une source proche du Hezbollah ici à Beyrouth a confirmé à RFI que des unités supplémentaires des forces spéciales de l'armée syrienne ainsi que des combattants libanais et iraniens avaient été déployés. Les rebelles ont quant à eux affirmé vouloir doubler leurs effectifs. Dans ce cadre, le ministère russe de la Défense a indiqué mercredi que 7000 djihadistes étaient massés près d'Alep. Sur le terrain, la situation est volatile. L'armée syrienne et ses alliés ont repris leurs actions offensives pour tenter de fermer le couloir ouvert par les rebelles vers les quartiers est assiégés par le régime. D'intenses raids aériens et des tirs d'artillerie visent ce couloir de 900 mètres de large et de 2 km de long, insuffisant pour permettre un approvisionnement normal des zones encerclées. Les rebelles ripostent par des tirs d'obus et de roquettes contre les secteurs ouest tenus par les troupes gouvernementales. Au moins 12 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés ce mercredi par ces bombardements à Hamdaniya. L'ouest d'Alep, où vivent plus d'un million d'habitants, est mieux approvisionné que les quartiers est qui abritent 250 000 personnes. Le régime a aménagé une route alternative qui contourne la ville par l'est et le nord et des convois de carburant et de vivres sont déjà entrés.
La Syrie, terrain prioritaire du groupe État islamique, mais qui, en recul, tente de se développer dans de nouvelles zones, selon des experts, par exemple l'Afghanistan et le Pakistan. Les actions se multiplient, comme lundi, à Quetta, dans l'ouest pakistanais. Un attentat revendiqué par le EI a fait plus de 70 morts et une centaine de blessés devant un hôpital. Le chercheur Christophe Jaffrelot du série Sciences Po nous expliquait pourquoi le groupe État islamique est de plus en plus présent dans cette région.
On a d'abord le passage de certains talibans afghans à l'État islamique qui ne souhaitent plus être membres d'une mouvance trop dépendante du Pakistan. Le Pakistan a longtemps été le grand frère et l'armée pakistanaise a longtemps aidé les talibans afghans, mais certains veulent s'en émanciper et se reconnaissent dans un agenda beaucoup plus global, beaucoup moins afghano-centré. Donc ça, c'est une première source de recrutement de l'État islamique dans la zone Afghanistan-Pakistan. Et l'autre source de recrutement, elle est plus pakistanaise, elle vient du TTP, hein, des talibans pakistanais, qui eux ont déjà un agenda qui est beaucoup plus global, qui vise non seulement l'État pakistanais, mais les forces occidentales dans la zone. Et là, on a vu des commandants du TTP prêter allégeance à l'État islamique au cours des derniers mois. Donc, cette revendication peut être l'indice de cette nouvelle présence d'un groupe qui est encore marginal, mais qui marque des points.
Le chercheur Christophe Jaffrelot avec Christophe Paget. L'actualité en Asie maintenant avec l'adoption d'une nouvelle constitution en Thaïlande. Les résultats définitifs donnés mercredi du référendum de dimanche dernier confirment la victoire du oui à plus de 61%. Texte voulu par la junte au pouvoir depuis 2014 et adopté donc malgré des mesures controversées renforçant la mainmise des militaires sur les institutions. Le chef de la junte a néanmoins promis de tenir des élections en 2017. Et c'est dans ce contexte justement que la côte thaïlandaise, les régions touristiques ont été frappées par une série d'attaques à la bombe jeudi et vendredi. Plusieurs personnes ont été tuées.
Une semaine d'actualité.
Au Japon, on se prépare à tourner une page. L'empereur Akihito, âgé de 82 ans, a avoué lundi à la télévision son inquiétude. Avec les années qui passent, il sent la difficulté d'assumer sa charge. Et s'il ne peut ouvertement évoquer une abdication, il n'a pas le droit de quitter le pouvoir. Il pense à une régence. On écoute un extrait du discours de l'empereur, suivi de l'analyse de notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles.
Face au vieillissement de l'empereur, je pense qu'il n'est pas possible d'alléger continuellement les tâches de l'empereur. Une régence pourrait être établie qui pourrait agir à la place de l'empereur si celui-ci ne pouvait plus assumer ses devoirs, notamment s'il était gravement malade.
L'empereur Akihito a exprimé par touches subtiles sa volonté d'abdiquer. Il a été clair en se gardant toutefois d'utiliser le mot « abdication » parce que la Constitution lui interdit de le faire. L'empereur Akihito a expliqué qu'il sent le poids des ans. Il est souffrant, il a 82 ans, il a subi une opération du cœur et de la prostate. Il a déjà réduit ses activités protocolaires. Il ne lui est pas possible de les diminuer davantage. En clair, « laissez mon fils prendre ma place » assumer le rôle de régent. L'empereur Akihito a dit aussi quelque chose de très touchant. Il se demande s'il est possible, le jour de sa mort, d'éviter la pression et le stress auxquels seront soumis ceux qui devront organiser ses funérailles. En clair, l'empereur ne souhaite pas que la nation porte son deuil de façon excessive, comme ce fut le cas avec son père. L'empereur a déjà exprimé sa volonté d'être incinéré, pratique courante ici, et non pas enterré, comme le sont les empereurs. Il a aussi demandé, et c'est exceptionnel, à pouvoir reposer aux côtés de l'impératrice. La majorité des Japonais, 80% d'entre eux, disent aujourd'hui « laissez l'empereur abdiquer, laissez l'empereur prendre une retraite bien méritée ».
Sept jours en Afrique.
On en vient effectivement à l'actualité africaine avec un homme fort à la barre du Tchad depuis 25 ans et qui a débuté lundi son cinquième mandat. Après un week-end où toute réunion d'opposition avait été interdite, ce qui n'a pas empêché la mort d'un manifestant dimanche, eh bien, Idriss Déby a prêté serment. 14 chefs d'État étaient présents, ses voisins surtout, qui ont, comme l'a expliqué sur l'antenne de RFI Florence Maurice, grand besoin de la solidité de l'armée tchadienne pour combattre les groupes djihadistes.
Idriss Déby a-t-il fait de son armée son principal argument diplomatique ? Une chose est sûre, note un observateur, la plupart des chefs d'État présents à N'Djamena lundi sont dans une relation militaire avec lui. Certains ont directement bénéficié de l'intervention de ses troupes ces dernières années, la Centrafrique de Faustin Archange Touadéra, le Mali d'Ibrahim Boubacar Keïta. D'autres voient en Idriss Déby un allié précieux dans la lutte contre le djihadisme au sein du G5 Sahel ou de la force multinationale de lutte contre Boko Haram, groupe contre lequel Idriss Déby se présente avec son armée en irremplaçable rempart. Étaient présents également lundi à N'Djamena, le Soudanais Omar el-Béchir, toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Autrefois ennemis, les deux pays entretiennent désormais un partenariat stratégique, notamment dans la pacification du Darfour. À l'évocation de cette liste de chefs d'État, un chercheur estime « on est dans l'utilitarisme plus que dans le soutien enthousiaste ». Pour lui, ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Paris a choisi d'être représenté par son ministre de la Défense et non celui des Affaires étrangères. Paris qui, en installant le quartier général de sa force Barkhane à N'Djamena, a conforté le Tchad dans son statut de principal allié régional.
L'Éthiopie fait face à une grosse crise sociale. Les forces de sécurité ont brutalement réprimé les manifestations anti-gouvernementales du week-end dernier, tuant par balles plusieurs dizaines de personnes dans les régions Oromo et Amhara, les deux principales ethnies du pays, qui sont en plein cycle de contestation du parti au pouvoir jugé autocratique. À Addis Abeba, correspondance de Karim Lebourg.
L'ampleur des manifestations et le bilan humain très lourd commencent seulement à émerger. Des rassemblements ont eu lieu samedi dans l'ensemble de la région Oromo, la plus peuplée du pays. La réponse a été brutale. Dans plusieurs localités, la police a ouvert le feu sur les manifestants. La contestation a pour la première fois touché la capitale, Addis Abeba, où quelques centaines de manifestants ont été violemment dispersés. Dimanche, les manifestations se sont étendues à la région Amhara, dans le nord, avec des milliers de personnes dans la ville touristique de Bahr Hindar. Le gouvernement éthiopien a cherché à limiter l'impact de cette vague de manifestations en coupant purement et simplement l'Internet et les réseaux téléphoniques pendant presque 48 heures dans tout le pays. Oromo et Amhara, les deux principales ethnies en Éthiopie, manifestent depuis plusieurs mois pour des raisons différentes, mais qui ont en commun de dénoncer la chape de plomb imposée par le parti au pouvoir depuis 25 ans.
Gaspard Estrada, les pays émergents s'intéressent de très près au continent africain. La Chine, l'Inde, la Russie, la Turquie. On a le sentiment que c'est moins vrai du Brésil, mais vous me disiez tout à l'heure que c'était peut-être une fausse idée. Alors est-ce que les Brésiliens aussi s'investissent en Afrique?
Alors oui, je pense que un des traits les plus importants en fait de la diplomatie de l'ancien président Lula, qui s'est poursuivi certes à un degré moindre, mais qui reste encore présent, on verra par la suite si Michel Temer conservera cet axe de politique étrangère qui n'est pas exportable au reste de l'Amérique latine, dans le sens où il existe des liens entre le Brésil et l'Afrique, tout simplement des liens qui sont liés à l'histoire et à l'esclavage, à l'histoire de l'esclavage.
Il y a une passerelle culturelle très claire.
Ah ben oui, oui, très clairement. Il y a des millions, pour vous donner un chiffre, le port de Rio de Janeiro a accueilli plus d'esclaves venant de Luanda, le principal port négrier d'Afrique, qu'une ville comme New York ou la Nouvelle-Orléans. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Brésil a, selon les termes de l'historien Nino Rodriguez, a trois racines, une racine européenne, une racine indienne ou indigène et une racine noire.
Kinshasa, 105 FM.
On en vient à l'un des feuilletons que l'on suit semaine après semaine dans une semaine d'actualité. Votera-t-on en République démocratique du Congo ? Le peu d'empressement des autorités à organiser le cycle électoral leur attire des remontrances de la communauté internationale et des ONG. La représentante de Human Rights Watch, Aida Sawyer, faisait partie des critiques. Elle a dû quitter le pays cette semaine, son visa n'ayant pas été renouvelé. Officiellement, cette décision n'a rien de politique. Les précisions d'Anne Kantner sur cette affaire.
Après 8 ans de travail et d'enquête en République démocratique du Congo, Aida Sawyer est privée de visa. Elle est repartie hier soir. Human Rights Watch rappelle qu'elle n'est pas la première. L'année dernière, le représentant pour le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a été expulsé, puis un chercheur américain au début de l'année et le mois dernier, plusieurs membres de l'ONG Global Witness. C'est une tactique du gouvernement, explique Human Rights Watch. Les autorités s'en défendent. Le porte-parole du gouvernement assure qu'il ne connaît même pas les raisons de ce refus de visa, explique que les services d'immigration n'ont pas à se justifier et de son côté, la Direction générale de migration se contente de dire qu'elle n'a pas jugé opportun de renouveler le visa d'Aida Sawyer, mais qu'il ne s'agit pas d'une décision politique. Difficile à croire pour une source occidentale qui parle de mauvais signal envoyé par les autorités congolaises, loin des mesures d'apaisement promises par Kinshasa.
En Zambie, les élections se sont déroulées jeudi, présidentielles, législatives, élections locales, référendum constitutionnel. Les résultats sont d'ailleurs attendus dans les heures qui viennent, mais après une campagne difficile, ils s'annoncent extrêmement serrés entre le président sortant Edgar Lungu et son rival Hakainde Hichilema, qu'il n'avait battu que d'un point et demi lors du dernier scrutin. Au Gabon, la campagne, là, est réellement tendue entre d'une part Ali Bongo, qui vise un second septennat, et ses nombreux opposants, pour la plupart d'anciens membres du parti au pouvoir. Ce scrutin à un seul tour aura lieu le 27 août, et les Gabonais l'attendent avec beaucoup d'impatience. Un informaticien gabonais installé au Québec vient d'ailleurs de créer une application pour permettre de suivre les résultats en temps réel. Près de 2500 internautes se sont engagés à mettre en ligne ces résultats dès qu'ils les auraient en leur possession. Yves Laurent Goma a suivi un test de l'application à Port-Gentil.
L'application a un nom très célèbre. Regab, c'est la bière préférée au Gabon. Rien que par ce nom, elle suscite la curiosité des Gabonais qui, cependant, ne savent pas encore comment ça va marcher.
Encore faut-il tenir compte de la fiabilité des données qui seront sur cette plateforme. N'en doutons pas, attendons.
C'est pas mauvais ça, ce serait pas mal quand même. On sera peut-être les premiers dans la sous-région.
Pour l'utiliser, il suffit de disposer d'un smartphone et télécharger gratuitement l'application. Jean-Pierre Rougou est blogueur et opposant gabonais. Il espère que l'application est une contribution à la transparence électorale au Gabon.
Pour la transparence électorale au Gabon, que nous recherchons depuis de très longues années, cette initiative est à saluer.
Au Gabon, le dépouillement des résultats est public, sauf que la loi interdit la publication des résultats partiels non officiels. Contacté par RFI, le ministère de l'Intérieur n'a pas souhaité s'exprimer sur l'initiative des promoteurs de Regab qui souhaitent mettre en ligne tous les résultats dès la fin du dépouillement.
Voilà, ces élections au Gabon, bien sûr, on les suivra sur RFI. Un dernier mot avec vous, Gaspard Estrada. Le Brésil, sous la présidence Lula, revendiquait un siège au Conseil de sécurité de l'ONU au nom de l'Amérique latine. Où en est aujourd'hui cette revendication?
Bon, je crois qu'il s'agit d'une priorité de la politique étrangère du Brésil. Le Brésil s'est toujours considéré comme un pays un peu à part en Amérique latine. Ce qui est aussi lié à la propre image du fondateur de cette diplomatie brésilienne, le baron de Rio Branco, qui a constitué ce qu'est le Brésil aujourd'hui. C'est lui qui a obtenu en fait l'annexion de plusieurs États frontaliers du Brésil et ce qui a contribué à sa légende. Aujourd'hui, le Brésil reste candidat au Conseil à obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France, très récemment, a réaffirmé son soutien à cette vieille revendication. Cela étant dit, la réalité aujourd'hui politique des Nations Unies, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va élire un nouveau, en tout cas les États membres vont élire un nouveau secrétaire général de l'ONU. Est-ce que ce nouveau secrétaire général pourra mener à bien les réformes qui sont donc réclamés par la communauté internationale depuis plusieurs années, même depuis plusieurs décennies, pour réformer ces institutions. On verra, je pense que pour le moment, le Brésil, de la même manière que le reste des pays qui revendiquent en fait l'obtention de ce siège, vont encore attendre pour voir.
Merci Gaspard Estrada d'être venu dans une semaine d'actualité. Je rappelle, vous êtes chercheur en sciences politiques, directeur exécutif de l'OPAL, que l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po Paris.
Directamente dos barrancos, barracos, malocas, beiradas e ladeiras, o vento que sopra, que espalha poeira, que joga você, caboclo, caboclo, pra perto da beira.
Aquele mura de gafó nascido em águas mansas, procurado, carimbado lá pra aquelas bandas. Dona Amália me viu subindo a ladeira de pele cinza, descalço, fazendo careta. São tempos.
L'émission, bien sûr, est à retrouver en podcast sur RFI.fr. On reviendra sur les JO demain soir sur RFI, alors que les épreuves d'athlétisme vont battre leur plein ce week-end. Je vous retrouverai à 18h temps universel ce dimanche dans Géopolitique le débat pour évoquer les enjeux de puissance et de géopolitique liés à l'olympisme. Je remercie également Sophie Janin qui assurait la réalisation de cette émission. Et bien sûr, vous restez sur RFI tout de suite, un nouveau journal puisque l'actu ne s'arrête jamais sur la radio du monde.
Canto o som das matas, matas, canto o som. Canto o som das matas, matas, canto o som. Canto o
som das matas, das beiradas do Igapó. Canta o som das matas, matas, canta o som. Canta o som das matas, faz um ré, faz um dó. Canta o som das matas, matas, canta o som. Canta o som das matas, das beiradas do Igapó.
Brasil, pátria amada, fiéis soldados da quebrada. O uniforme é calça larga, bermudão, chinelo, de dedo ao pé no chão. Não importa a cor, não importa a origem. É uma farofa da periferia que resiste. Então se ligue, pratique, se conscientize, revire-se. Sou mais um cidadão que resiste às circunstâncias. Me impôs um jeito diferente pra pensar. O sistema me empurrou, mas eu aprendi a voar. Você me vê de lenço, fica com medo, besteira. Não quero suas joias nem sua carteira. Quero muito mais além. Quero te fazer refém da batida. O som que abala suas correntes, sanguíneo, sou BW, mano. Vai vendo. Aquele que você critica, então escuta. Não tenho sangue teu, nem te devo nada. Em boca fechada, não entra mosquito. Língua solta, vai pra bala, se acaba e vira pó. Então fica nas calçadas que dá dó. Ré, mi, fa, sola. Agora vou grudar na tua sola. Você é a lama que te atola. Um pequeno igarapé que te afoga. Vai se arrepender e vai ser tarde. Sou como um raio quando bate uma árvore. Um beco sem saída.